Deutsche Welle. Droits et libertés.
Cette semaine, nous retrouvons Nicolas Crameyer d'Amnesty International pour la seconde partie de notre entretien sur la Corée du Nord. La semaine dernière, nous avons évoqué le contrôle grandissant des communications téléphoniques et internautiques opérées par le régime en place à Pyongyang. Des contrôles qui induisent d'autres violations des droits humains dans cet État qui compte parmi les plus hermétiquement fermés au monde. Aujourd'hui, petite note d'espoir, nous parlons avec Nicolas Crameyer de l'émergence d'une classe moyenne nord-coréenne et des possibilités de voir un jour peut-être la population accéder à davantage de liberté. Au micro, Sandrine Blanchard, bonjour à tous. Monsieur Crameyer, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes donc responsable du programme Liberté d'expression chez Amnesty International France. Après avoir publié ce nouveau rapport sur la communication, les entraves à la liberté d'expression, notamment en Corée du Nord, est-ce que le militant des droits de l'homme que vous êtes n'a pas tendance à être découragé par un pays comme la Corée du Nord ? Parce qu'on voit que le régime se maintient malgré les sanctions qui sont renforcées par l'ONU. Malgré le soutien au moins officiel de la Chine à ces sanctions, il n'y a pas grand-chose qui change en Corée du Nord, si ?
Alors oui, néanmoins, ce que l'on peut constater tout de même, c'est que Amnesty, par exemple, avait lancé une campagne assez importante pour la fermeture des camps de prisonniers politiques, qui sont des camps avérés, et là, par les images satellites qu'Amnesty notamment a pu publier, par des dizaines et des dizaines de témoignages totalement corroborés.
Mais le régime lui-même ne reconnaît pas l'existence de ces camps.
Le régime lui-même ne reconnaît pas l'existence. Ce que l'on peut voir, et ce qui nous semble assez avéré aujourd'hui, c'est que ces camps de prisonniers politiques, leur taille a largement, et le nombre de personnes enfermées dedans, semble avoir très fortement diminué. On voit bien aussi que le soutien de la Chine, dont dépend quasiment exclusivement la survie du régime nord-coréen, le soutien de la Chine se fait de plus en plus conditionné et de plus en plus agacé par rapport à la situation assez ubuesque dans laquelle la dynastie des Kim en Corée du Nord maintient son peuple au pouvoir. On voit aussi que malgré tout ce qui peut être dit, la naissance de ces marchés informels ont permis l'émergence d'une petite classe moyenne en Corée du Nord et que l'information, même si elle est quasiment ou très difficilement accessible, que l'information de l'extérieur circule. C'est-à-dire que les Nord-Coréens peuvent regarder de manière extrêmement conditionnée, mais au-dessus du mur qui est dressé par les autorités nord-coréennes.
Mais est-ce qu'il est probable que ce qui avait été raconté par Shin Dong-hyuk à l'époque dans son ouvrage, c'est-à-dire qu'il n'était même pas au courant de l'existence d'un monde extérieur, est-ce que ça, c'est quelque chose qui est vraisemblable pour une large partie de la population nord-coréenne, auquel cas elle ne saurait même pas qu'un monde extérieur existe et encore moins que des gens à l'extérieur se préoccupent de son sort ?
Alors, le cas de Shin Dong-hyuk est le cas d'une personne, comme il en existe malheureusement beaucoup d'autres en Corée du Nord, d'une personne qui est née dans un camp de travail, un camp de prisonniers politiques, Kwon Li-so, qui sont des camps où la majeure partie des détenus vivent toute leur vie au sein de ce camp, vivent et meurent dans
en complète autarcie,
d'esclavage et de complète autarcie. Il y a eu un certain nombre de personnes qui ont réussi à s'échapper de ces camps et qui font que leur existence est connue et que les conditions absolument épouvantables qui y règnent sont aujourd'hui relativement bien documentées. Donc le cas de Shin Dong-hyuk, si vous préférez, est un cas extrême, mais on sait aussi qu'il y a de très nombreux Nord-Coréens qui vivent de manière plus ou moins clandestine, plus ou moins légale, de l'autre côté de la frontière chinoise, qu'il y a de très nombreux Nord-Coréens qui vivent aujourd'hui en Corée du Sud ou au Japon ou dans d'autres pays. Et l'existence enfin de ces marchés et de ces produits importés plus ou moins clandestinement en Corée du Nord fait que bien entendu, la bulle que souhaite ériger le régime est extrêmement étanche et il est extrêmement compliqué pour les Nord-Coréens d'avoir accès à de l'information extérieure, ou en tout cas à l'essentiel de l'information extérieure. Mais il y a des bribes qui passent et qui font que, vraisemblablement, un certain nombre de Nord-Coréens ne sont pas dupes du monde dans lequel on souhaite les enfermer.
Mais de là à se mobiliser pour lutter plus ou moins ouvertement contre le pouvoir, j'imagine qu'il y a encore un long chemin.
Tout à fait. Maintenir un peuple comme ça sous surveillance et censure quasi totale fait qu'effectivement il est extrêmement difficile de pouvoir adopter une attitude critique, puisque même si on souhaite la mettre en place, les risques sont tellement énormes, c'est-à-dire que concrètement c'est une exécution ou c'est la vie de soi-même et de sa famille dans un camp de prisonniers politiques. C'est ça que l'on risque si l'on dit quelque chose contre les autorités nord-coréennes. Bien entendu, met un peuple sous les teignoirs et ses velléités de revendications sous les teignoirs.
Cela dit, dans aucun état du monde, aucune région du monde, un régime aussi totalitaire et terrorisant soit-il, n'a réussi à se maintenir indéfiniment en place. Comment est-ce que ça émerge justement de rien, d'une conscience politique et sociale nulle? Comment émerge une conscience de critique, de revendication petit à petit dans une société aussi verrouillée que la société nord-coréenne?
Bien malins sont ceux qui auraient pu prédire la chute de Ben Ali ou la chute de Moubarak il y a quelques années. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que bien évidemment, même si l'on est maintenu dans une totale ignorance du monde extérieur et dans une totale ignorance de ce que sont les droits humains fondamentaux et universellement reconnus, bien entendu, les personnes, et c'est aussi valable dans les camps de prisonniers politiques, se rendent bien compte d'un certain nombre d'injustices. Ça prend beaucoup plus de temps. À cet égard, le témoignage de Shim Dong-hyuk, même si il a lui-même reconnu qu'il y avait un certain nombre de mensonges dans son témoignage, est assez éclairant sur comment un gamin qui est né dans un camp de prisonniers politiques, petit à petit, commence à se rendre compte que les choses ne fonctionnent pas par le biais de rencontres.
C'est
de
ça, il raconte qu'un coprisonnier lui parle d'autres lieux, d'autres époques de sa vie en dehors de la prison.
Tout à fait. Mais encore une fois, bien évidemment, c'est toute la difficulté, cette mainmise totale du pouvoir sur quasiment l'ensemble des aspects de la vie de ses citoyens fait qu'un mouvement de conscience collective critique aura énormément de mal à émerger.
Parce que Kim Jong-un est encore jeune, il a une trentaine d'années. Pour le moment, on ne lui connaît pas de descendants, je crois. Est-ce qu'on peut imaginer que la lignée se poursuive encore pendant 50 ans, 100 ans, ou c'est totalement imprévisible?
Écoutez, là on est.
Vous n'êtes pas Madame Soleil.
Voilà, on est un peu dans la politique fiction. À titre personnel, je pense que non, il n'est pas possible de pouvoir maintenir un régime complètement hors du monde comme cela pendant très longtemps. Mais soyons très clairs aussi, la Corée du Nord, malgré ses rodomontades, a besoin de la communauté internationale, a besoin de la Chine pour survivre, de pouvoir échanger économiquement, commercialement. Et il est extrêmement important que dans leurs relations avec la Corée du Nord, que les pays et la communauté internationale conditionnent cela à de vraies ouvertures en matière de droits humains. Il ne faut pas se dire que la Corée du Nord pense qu'elle peut être un régime autarcique. Ça, c'est fini depuis les années 90, où les grandes famines qui ont frappé la population nord-coréenne ont montré aux dirigeants nord-coréens qu'ils ne pouvaient pas survivre sans l'apport du monde extérieur. Donc il est extrêmement important que les opinions publiques fassent pression sur, en s'informant, en signant des pétitions, en se mobilisant sur, au sein de leur pays, pour faire en sorte que leur gouvernement se dise qu'il est important de continuer à maintenir et à renforcer la pression sur la Corée du Nord.
Et c'était un petit peu le sens de ma question, c'est qu'en réalité, on a l'impression que le sort de la Corée du Nord et des Nord-Coréens préoccupe assez peu finalement les dirigeants du monde entier du moment que Kim Jong-un fait ses petites affaires chez lui.
Bien évidemment, vraisemblablement, ce qui va d'abord et avant tout motiver les diplomaties du monde entier, c'est la question du nucléaire nord-coréen, par exemple, bien évidemment. Néanmoins, ce que l'on a pu voir, c'est que grâce à la mobilisation, pour le coup, de la société civile internationale, à la coalition internationale contre les crimes contre l'humanité en Corée du Nord, donc dont Amnesty International a longtemps fait partie. Cela a mené à la création d'un rapporteur spécial sur les violations des droits humains en Corée du Nord, recensant l'essentiel des violations en Corée du Nord.
Donc, mandaté par les Nations Unies, hein.
Mandaté par les Nations Unies, que la Chine s'est abstenue plusieurs fois de mettre son veto à des résolutions dénonçant les violations des droits humains, ce qui est aussi une première due réellement à la mobilisation internationale. Tout cela, c'est extrêmement important. Et donc nous avons des moyens de discussion et de pression pour que le peuple nord-coréen puisse avoir une vie un peu plus digne.
Nicolas Crameyer, responsable du programme Liberté d'expression chez Amnesty International France. Grand merci.
Merci beaucoup.
Au revoir.
C'est la fin de ce magazine. Merci à Nicolas Crameyer d'Amnesty International. Pour réécouter cette émission ou la première partie de notre entretien sur la Corée du Nord, rendez-vous sur notre site internet dw.com/français à la rubrique « Nos podcasts ». C'est tout en bas de la page d'accueil. Salut et à la semaine prochaine. Stars are rising.